Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris, un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Alors avant de saluer l'ami Pierre Hiverna, directeur de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, qui va nous faire la cerise sur le gâteau cette semaine, je voulais dire qu'on avait appris cette semaine la disparition d'un grand chef, le chef gascon André Daguin, et que nous saluons ici sa mémoire. Bonjour Pierre Hiverna.
Bonjour Caroline.
La chronique La cerise sur le gâteau, c'est donc tous les dimanches à 12h25. Pierre, aujourd'hui, de quoi s'agit-il ?
Eh bien aujourd'hui, je vous emmène à Lyon, très exactement à la bibliothèque municipale, où une exposition vient d'ouvrir qui s'intitule « Des villes qui mangent ».
Alors à tout à l'heure, Pierre. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Qui donc nous raconte sa madeleine aujourd'hui ?
Bien après Robert Guédiguian la semaine dernière, c'est son actrice fétiche et épouse à la ville, Ariane Ascaride, qui m'a reçue. Mais vous verrez, nous sommes très très loin de la choucroute du réalisateur.
Et la madeleine, c'est à 12h15. En ce mois de décembre, où les repas de fête vont se multiplier, nous avons choisi de mettre les petits plats dans les grands. Pour le dernier dimanche de l'année, le 29, nous parlerons champagne. Avant cela, à la veille de Noël, nous irons dans les cuisines d'une légende française vivante, Pierre Gagnaire. Le 15, nous fêterons les 50 ans du guide Goemio. Et aujourd'hui, nous allons faire le portrait d'un cuisinier exceptionnel, décrit comme surdoué, le fameux critique gastronomique Gilles Pudlowski, fondateur des guides Pudlot, dit de lui que c'est de la bombe, que chaque assiette de lui diffuse des éclairs scintillants, des instants choisis, des alliances justes, des mariages rares, et le tout sans esbrouffe. Il a donc toute sa place aux bonnes choses.
Chips de tapioca, tartare de carabineros, citron, noisette, croustillant d'huîtres, framboises, échalotes, caviar, déclinaison topinambour, jaune d'œuf fumé, risotto de céleri, truffe du Périgord, châtaigne fraîche, Saint-Jacques, caviar, consommé de barbe et topinambour, cabillaud confit à l'huile d'olive, livèche, segment de mandarine, anguille fumée au sésame noir, tourte de pigeon au foie gras, crème de pommes de terre, cacao, parmentier de canard, crème de chou-fleur, vanille, noix de coco, chocolat blanc. Déclinaison agrumes, citron, kumquat, orange sanguine. Chocolat, truffe, noisette du Piémont.
Bonjour David Toutain.
Bonjour Caroline.
Bienvenue dans cette émission Les Bonnes Choses. Vous êtes le chef du restaurant éponyme situé rue Surcouf dans le 7e arrondissement à Paris, un restaurant que vous avez ouvert en 2013. On vient d'entendre dans la bouche de Stéphanie Villeneuve l'énumération de quelques-uns de vos plats qui forment finalement comme tout un repas, tout un voyage, une expérience que vous nous proposez. Vous vous êtes reconnu, c'est presque un portrait de vous au fond.
Deux saisons. Je me suis reconnu en pleine saison, on est sur l'hiver, on parlait de truffes, on parlait de topinambour, les noix de Saint-Jacques. Donc c'est des choses qui sont réconfortantes, qui me sont propres, parce qu'on est fiers d'utiliser des produits de notre bel hexagone, des produits de saison, et qu'on essaie de sublimer tous les jours au sein de notre restaurant.
Alors on parlera de votre cuisine tout à l'heure, mais on va presque procéder comme vous l'avez fait dans un livre absolument magnifique qui vient de paraître, qui s'appelle David Toutain, c'est vraiment un portrait. Les textes sont signés d'un ornithologue, on y reviendra tout à l'heure, c'est Philippe-Jacques Dubois. Les photos sont réalisées, vous êtes en famille, par votre épouse, Taille Toutain. Et ce livre part des origines pour arriver au quotidien du chef cuisinier que vous êtes. Alors partons des origines, ou presque, parce qu'on n'a pas le temps de remonter vraiment à votre enfance pour le moment. Mais vous, partons de votre CAP. Le CAP obtenu à l'école hôtelière de Granville, si je ne m'abuse.
Exactement.
Après, vous êtes passé, ben justement, on en parlait, par les cuisines du 3 étoilés Pierre Gagnaire, mais aussi par celle d'Alain Passard, avec qui vous avez appris à cuisiner les légumes et à les aimer particulièrement, celle de Bernard Pacot ou encore celle de Marc Vera. Est-ce que vous diriez, David Toutain, que ce sont les chefs qui finalement vous ont tout appris ?
Les chefs m'ont beaucoup appris. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la chance d'aller travailler chez eux. Pourquoi ? Parce que c'était au-delà du chef. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour moi, ils racontent une histoire. C'est des artistes. Au-delà de la cuisine, il y a un homme derrière tout ça qui vont nous raconter une histoire, qui vont nous dire pourquoi, comment, pourquoi on va cuisiner le végétal, pourquoi on va faire une cuisine classique. Et ça a toujours été une chance d'aller plus loin, de comprendre ce qu'ils font. Et Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont beaucoup aidé à faire ça, ce qui m'a donné l'envie aussi d'ouvrir mon restaurant il y a 6 ans.
Je disais que vous aviez appris à cuisiner les légumes avec Alain Passard quand il s'est mis à cuisiner les légumes et plus la viande qu'il faisait avant. Mais qu'est-ce que vous diriez des spécificités de chacun ? Marc Vera, Pierre Gagnère, Bernard Paco.
Leur spécificité, c'est qu'ils ont vraiment un monde à eux.
Une cuisine d'auteur.
Exactement. Et on peut parler de peinture ou de tout ce qui touche un petit peu au côté artistique. Et ce sont des artistes. C'est-à-dire qu'ils vont aller loin dans leur cuisine, ils vont aller loin dans leurs produits, ils vont faire des choses lisibles, mais des choses qui sont propres à eux. C'est-à-dire que chacun va avoir une cuisson différente d'un pigeon, d'un assaisonnement différent sur une carotte, des associations dans l'assiette qui vont être différentes, un travail sur le visuel différent. Et c'est ça qui m'a vraiment passionné et interpellé également. C'est-à-dire que je veux aller plus loin dans la compréhension, je veux pas juste cuisiner pour cuisiner. Et à travers tout ça, c'est des grands chefs qui m'ont marqué aussi, il y a un moment qui disent « Bah toi, tu dois trouver aussi ta cuisine, tu dois trouver ton monde, t'es qui ?» Et c'est pour ça que le livre, à un moment, est apparu, parce que c'était un moment de se poser dans ma vie de cuisinier et de savoir d'où je venais.
Est-ce que vous en parlez, David Toutain, avec plutôt des chefs de votre génération, qui sont sans doute, j'imagine en tout cas, pour certains d'entre eux, des amis ? Est-ce que ils ont la même approche que vous de cette cuisine singulière, d'auteur, voire d'artiste que vous ?
Je pense que oui.
À qui pensez-vous ?
Je vais penser à Alexandre Gauthier.
La Grenouillère.
La Grenouillère. Je vais penser à Alexandre Couillon, la Marine à Noirmoutier. Alexandre Mazzi à Marseille, mais je vais prendre que ces 3 chefs, il y en a plein d'autres en fin de compte. Mais c'est fabuleux parce qu'ils vont construire un endroit pour eux, ils vont avoir leurs produits qui vont être exceptionnels, mais ils vont le sublimer, ils vont le transformer. Et c'est pour ça que je vais souvent manger chez eux aussi, parce que ils vont me faire découvrir des saveurs que je ne connaissais pas forcément, ou des associations qui vont être très pertinentes, mais moi je me plonge complètement dans leur monde en fin de compte. Et je pense que les gens aussi ont besoin de ça, nos clients ont besoin de ça. Tiens, je vais manger chez tel chef parce que il va être comme ça, il va faire comme ça. Mais le lien qu'on va avoir presque tous, c'est les produits, la traçabilité et la saisonnalité.
Alors après le CAP, après les cuisines des grands chefs, vous avez beaucoup voyagé. Australie, États-Unis, Japon, Scandinavie, Espagne. Qu'est-ce que ça vous a apporté les voyages ? Est-ce que vous avez rapporté des façons de faire de tous vos voyages ? Ou est-ce que vous avez rapporté, mettons, l'idée justement que manger, ça doit être plus que manger, ça doit être une expérience ou même un voyage ?
Le voyage m'a ouvert à la culture des autres, à comprendre. C'est pas partir pour copier, pour refaire ou quoi que ce soit, mais j'ai appris à adorer Mexico. Ils ont une street food qui est exceptionnelle. Vous allez manger à Kyoto, on mange merveilleusement partout dans le monde parce que c'est leur cuisine, c'est leur produit, c'est leur culture. Et je suis ouvert à tout ça. Et ça me passionne parce que ça nous dit encore que tout est permis, tout est possible. Et c'est merveilleux la cuisine.
Vous dites qu'il y a un truc qui a changé votre vie de cuisinier. C'est un ingrédient, c'est une spécialité japonaise. C'est le yuba.
Ah oui.
Qui est la peau de lait de soja.
C'est merveilleux.
Alors racontez-nous ce que vous en faites, vous, de
yuba.
Non,
mais j'étais au Japon.
Ouais.
On était en train de manger et là, stop, on arrête de manger, tout le monde dehors. Et en fin de compte, ils étaient en train de préparer le yuba. Donc le yuba, en fin de compte, c'est du lait de soja et c'est la peau du lait de soja. Donc à ce moment-là, ils avaient juste la récolter. Donc c'est dans des grands bains-maries, 50-60 de degrés, ça va faire des fines pellicules de lait. Or, soit qu'on peut servir frais, après on peut les plier, on peut les sécher, on peut les manger croustillants. Enfin, il y a différentes techniques. Et c'est vrai que quand je suis revenu, j'ai adoré ce yuba et je me le suis approprié avec notre lait fermier. Où est-ce qu'on pouvait le faire sécher et également le récupérer. Et donc, on faisait des desserts à base de peau de lait. Mais c'est exceptionnel parce qu'il y avait cette culture, cette passion et ce point très essentiel de cette température, le fait de prendre le yuba, de le faire sécher. C'est exceptionnel de voir les gens travailler. Le savoir-faire est assez impressionnant.
Alors, en 2013, vous ouvrez votre restaurant, donc rue Surcouf, à Paris. Et puis en 2015, voilà une première étoile au guide Michelin. En 2017, vous êtes récompensé de 4 toques au guide Goemio, d'une élection au titre de cuisinier de l'année par le guide Pudlowski. Tous les guides, donc, s'emparent de vous. En 2019, le guide Michelin vous décerne une 2e étoile. C'est important, toutes ces récompenses, pour un jeune chef comme vous ?
Pour moi, oui, c'est important. On ne va pas cuisiner pour ça. Enfin, moi, en tout cas, je cuisine pas pour ça. Je suis sincère, je cuisine pas tous les matins pour me dire « Tiens, je veux avoir 2 étoiles ou je vais garder 2 étoiles ou je veux avoir 4 toques, donc je vais faire comme ça. » En fin de compte, je cuisine comme je le sens. On reçoit les gens comme on le sent et on veut le faire sans aucune pression. faut que ce soit bien clair. Après, on fait attention dans ce qu'on fait, parce que c'est notre façon de cuisiner, mais il y a 6 ans, on faisait exactement la même chose, en fin de compte. Mais après, c'est ma cuisine qui a évolué. Je pense qu'on s'est reconcentré sur les goûts, sur la simplicité et sur les saveurs. Je pense les associations, on a enlevé énormément de choses dans ma cuisine pour recentrer vraiment sur le goût et les saveurs. Mais oui, les guides sont importants. C'est une belle reconnaissance en tant que chef, en tant qu'homme. Et ça nous donne envie de continuer, d'aller de l'avant. Puis aussi par rapport à notre clientèle, ça nous fait une nouvelle clientèle qui peut venir aussi grâce à ça. Le fait d'avoir 2 étoiles, bah forcément, on va avoir une nouvelle clientèle, peu importe, française, étrangère, qui va entendre parler de nous, qui va venir au restaurant, qui va venir découvrir notre cuisine. Donc c'est une belle reconnaissance, puis pour les équipes également, parce que c'est un travail d'équipe. Donc bah, je ne suis pas tout seul, vous doutez bien. Donc on a quand même une 20aine de personnes à nos côtés pour travailler tous les jours. Donc ça motive les gens et ça fait voir qu'ils croient vos discours, qu'ils croient au discours de David Toutain, aussi à la cuisine, à la façon d'être. Et c'est toute cette équipe qu'il nous faut aller de l'avant et continuer.
Si David Toutain, on devait mettre 2 mots qui seraient 2 caractéristiques de votre cuisine, la cuisine d'auteur, David Toutain, est-ce que vous seriez d'accord avec, d'un côté, les goûts, et puis de l'autre côté, la nature ou le végétal ?
Oui, je suis d'accord. Ce qui est important, c'est que moi, quand j'étais petit, mes parents ont divorcé, j'étais petit. Donc, maman travaillait un peu le week-end, donc elle me laissait chez mes grands-parents à la ferme, et pendant les grandes vacances aussi. Donc, j'étais souvent à la ferme. Et moi, je voulais être agriculteur. Je ne voyais que les moissonneuses-batteuses. Pas forcément les vaches, mais vraiment l'agriculture en elle-même, les céréales et ainsi de suite. Bref, je suis parti dans la cuisine. Et un jour, en cuisinant comme ça, j'ai goûté de la betterave. Et vous savez, vous avez des flashbacks qui reviennent comme ça, me dire, mais oh, c'est marrant, c'est les goûts que j'avais quand mamie me faisait à manger. Et puis ainsi de suite. Et puis, bah, je me suis aperçu que, bah, il y avait des choses la cuisine passait derrière, en fin de compte, parce que j'étais omnibulé par l'agriculture, les tracteurs de mon grand-père. Mais mamie, elle me faisait à manger tous les jours et je comprenais pas forcément parce que c'était juste manger. Mais c'est des années plus tard ou 30 ans plus tard, tu dis, mais en fin de compte, oh, la chance que j'avais, on allait chercher le poireau, on cuisinait à la vinaigrette, on allait chercher les betteraves, qu'on cuisinait dans le panier vapeur et ainsi de suite. Et en fin de compte, la nature et les produits sont revenus à moi. Ils sont revenus à moi indirectement, même directement. Et je suis allé plus loin. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai fait une démarche aussi d'aller chercher nos fermiers, d'aller chercher tous les producteurs qui nous entourent, poissons, viande, ainsi de suite, les botanistes, pour faire que la nature puisse revenir dans notre assiette.
Et vous allez très loin hein, avec la nature, parce que vous vous amusez, vous faites même des trompe-l'œil. Par exemple, je vais donner juste un amuse-bouche. L'amuse-bouche salsifie, que vous déguisez en morceaux de bois, que vous déposez sur un fagot, mais alors cette fois avec vraiment des petites branches de vrai bois. Et puis, vous dites, bah, il faut prendre ces salsifis avec les doigts, puis on les trempe dans une crème panais chocolat blanc.
Oui.
Mais donc, les salsifis sont mélangés avec
du
vrai bois. Donc, la nature, elle est aussi dans la présentation, elle est aussi dans le décor, d'ailleurs, dans votre restaurant. Bois, métal forgé, mousse, vraiment, le végétal est là, partout.
Oui. Il prend une partie importante, effectivement, mais c'est aussi le côté ludique de la chose. C'est pas juste on fait pour faire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on va remettre nos boîtes salsifis dans les branches parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'un jour, en faisant des salsifis, on les allait oublier. Ils se sont oxydés très naturellement, on les a cuits au four, ça ressemblait à des branches. Donc après, on a eu l'idée au fait de travailler sur ça et d'aller plus loin dans la présentation, en fin de compte, sur ce côté ludique. Et on le sert en première amuse-bouche pour faire voir où est-ce qu'on est, tout simplement. C'est un peu à l'image du restaurant. Bon,
ça donne le ton.
Là, on est en pleine saison, ça donne le ton de la présentation, de l'esprit du restaurant. Et après, on plonge dedans, quoi. On plonge vraiment dans le restaurant. C'est-à-dire que la première assiette arrive, on dit « Waouh, on est où ?» Et c'est important aussi pour moi, ça marque le moment du dîner ou le moment du déjeuner. Et on essaie que les gens nous accompagnent dans ce moment-là.
Qu'est-ce que vous cherchez à procurer chez celui qui mange chez vous, David Toutain ?
Moi, je ne sais pas, mais c'est les gens qui me le disent. Et vous savez combien de fois on me dit « Mais vous m'avez fait remanger les choux de Bruxelles ?» Mais vous m'avez fait remanger de la betterave, et ainsi de suite.
Et j'ai salsifié.
Non, mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fin de compte, chacun va avoir une culture différente ou une approche différente. On a une culture différente, on a vécu dans, on a grandi dans des endroits un peu différents en France ou à l'étranger. Mais chacun a toujours une relation avec la nourriture et les produits, peu importe dans le monde. Et moi, ce qui est super, c'est qu'à travers le restaurant ou à travers la table, on arrive à avoir des flashbacks sur les gens qui disent, oh, mais ouais, je me souviens, je mangeais ça. Et des fois, ça va plus loin. C'est « Oh, je ne me serais jamais vu mélanger ça avec ça, avec ça. »
Mais c'est de l'émotion.
Exactement. Mais
parfois
c'est
de la surprise aussi.
Mais oui, mais c'est important parce que c'est l'histoire du restaurant. au-delà du côté végétal et autres, c'est qu'on est sur le produit, on va être sur des cuissons, on va être sur des assaisonnements assez pertinents et j'espère pointus. Mais qui fait qu'à un moment, on va avoir ce côté émotionnel, dire « waouh, on va retrouver le bouillon, on va retrouver la noix de Saint-Jacques », ce que j'appelle « cruchot ». Et chacun va l'interpréter un petit peu à sa façon, en fin de compte. C'est une cuisine que je vais faire moi, avec mon cœur, avec ma tête, mais chacun va la réinterpréter à sa façon, ce qui permet que d'une table à l'autre, telle personne va adorer ça, l'autre va adorer ça, et ainsi de suite. Parce qu'il y a tellement de goûts, et on est dans la dégustation de produits, qu'à chacun va s'y retrouver, et va pouvoir avoir ce côté flashback et le côté émotionnel.
Matteo Caranta, à l'instant, David Toutain parlait de la cuisine de sa mamie, d'une certaine façon. La personne que vous avez rencontrée cette semaine fait la même chose.
Absolument, une cuisine émotionnelle, en tout cas un plat qui lui provoque des émotions. C'est Ariane Ascaride, je vous le disais, qui est à l'affiche du film Gloria Mundi, pour lequel elle a reçu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise cette année. Dans ce film qui se déroule à Marseille, une famille recomposée et fragile lutte pour la survie sociale. Et on peut voir par les fenêtres des protagonistes le port industriel de Marseille, qui fait écho à un autre grand port de la Méditerranée où remonte la Madeleine d'Ariane Ascaride, c'est Naples.
Ma Madeleine, c'est un plat italien, napolitain, plus exactement, que faisait ma grand-mère paternelle, que ma mère a repris. Et qui était vraiment un peu un plat pour moi, chaque fois que je mangeais ça, c'était un peu la fête. Alors, ce sont des lasagnes, mais pas les lasagnes comme on connaît ici en France, qui sont des plaques. C'était des pâtes assez larges, comme ça, et dentelées sur les bords. Et c'était fait avec une sauce tomate, mais il y avait une couche de lasagne, de la sauce tomate, de la ricotta, et puis des petites boulettes de viande qui étaient faites moitié porc, moitié veau, avec du persil, des pignons de pin et des raisins de Corinthe. C'était un plat très grand la plupart du temps, parce que ma mère faisait ça souvent pour des fêtes ou à Noël ou des choses comme ça, ou au printemps aussi d'ailleurs, je me rappelle, pour des occasions, quoi, parce que ça demandait énormément de temps. Et le truc, c'est que ma mère faisait d'abord les boulettes et donc elle avait un torchon sur l'épaule. Et la plupart du temps, mes frères ou moi, quand on passait, elle faisait les boulettes. Donc on passait chaque fois et hop, on chopait une boulette qu'on mangeait. Donc ma mère nous faisait des coups de torchon pour qu'elle dise « mais il ne va plus rien rester quand je vais faire le plat, arrêtez de manger ». Alors ça, c'est l'orgueil de ma vie. C'est que je sais extrêmement bien faire la sauce tomate, exactement comme ma grand-mère. Et tout le monde se bat dans la famille pour essayer de comparer leur sauce tomate à la mienne. Pour l'instant, je gagne encore. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce qu'il y a, c'est que quand vous mangez les boulettes, elles sont gorgées de sauce tomate, parce qu'elles ont trempé dans la sauce tomate. Donc quand vous mordez dedans, vous avez le goût de la viande, le craquement sur le pignon. Et à ça s'ajoute quelque chose de sucré qui est le raisin de Corinthe. Donc ça fait un mélange de saveurs absolument génial. Et c'est d'une douceur et d'un réconfort qui est absolument génial. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que c'est le plat préféré d'une de mes filles. Donc si vous voulez, ça aussi, la chose continue, quoi. Ça se reproduit, ça perdure, la tradition perdure.
La transmission et puis le mélange des saveurs qui procurent la douceur et le réconfort. Elle vous parle à vous aussi, d'une certaine façon, David Toutain, Ariane Ascaride.
Exactement. Je m'y voyais. Non, mais me parler de raisins de Corinthe, je les voyais juteux. C'est la cuisine aussi. C'est pas juste cuisiner. Il y a aussi des moments, voilà, on va parler d'éplucher les haricots verts ou les choses comme ça qui sont très importantes et qui nous marquent également. Mais j'ai adoré cette anecdote sur le torchon.
Le coup de torchon
sur les enfants qui venaient, je trouvais ça assez sympathique et je voyais parfaitement l'image.
Va falloir, vous parlez en images beaucoup, hein, va falloir les reproduire, ces images, dans vos carnets de notes, parce que je crois que vous écrivez d'abord vos idées, voire vous les dessinez, vous remplissez des carnets de notes et de croquis, David.
Oui.
Tout un, c'est comme ça que vous viennent les plats, en les dessinant?
Qui viennent, non, mais je vais les associer sur un morceau de papier, ouais. C'est-à-dire qu'en vacances,
Lit, ce que nous a lu Stéphanie tout à l'heure, par exemple, votre dessert classique, hein, chou-fleur, coco, chocolat blanc, bah, c'est ça, vous faites.
Oui, exactement. Je dis, voilà, j'ai besoin de texture. Je prends un bol, je dis, tiens, je vais faire ça, tac-tac, on va partir là-dessus. Après, je vais écrire la recette à côté ou les idées, tac-tac. Puis après, on va travailler dessus. Et après, je raye tout, je recommence et ainsi de suite. Et puis, en vacances, ce qui est chouette, c'est que j'ai toujours un papier ou un post-it ou des choses avec moi, comme ça, que je puisse coller un petit peu partout. Et des fois, hop, ça me revient, j'ai ça, je reprends et ainsi de suite, quoi. En fin de compte, j'ai pas une façon de faire pour créer. J'en ai plein. Ça peut être une rencontre, ça peut être un paysage, ça peut être dans la cuisine, ça peut être au marché, il y en a plein. Mais c'est vrai que j'ai tendance à tout écrire. Et à un moment, je vais dire, tiens, il va me manquer un produit et je vais revenir. Ah ouais, c'était ça, en fin de compte. C'est le produit qui me manquait. Ou...
Mais quand vous pensez, par exemple, j'en prends un autre, hein, croustillant huître, framboise, échalote. On pense pas nécessairement que ça va aller ensemble. Comment vous... Vous vous dites, si je vais les mettre ensemble.
Alors, ce plat-là est arrivé, c'est assez marrant parce que, vous savez, on mange les huîtres avec des échalotes et avec un vinaigre de framboise. À la base, ça se passe comme ça. Mais moi, j'aime pas. J'aime bien l'huître au naturel. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on a Monsieur Caillot qui nous produit des échalotes dans la région de Reims. Mais la particularité, c'est que c'est des échalotes qui vont sécher en grange, qui vont avoir une belle pellicule, une belle peau. Et en fin de compte, elles vont s'évaporer en eau et se concentrer en sucre. Donc c'est une échalote qui n'est pas du tout amère, qui n'est pas du tout persistante, qui est un petit peu sucrée sur un sucre naturel. Et en fin de compte, je vais avoir ce produit-là, je pense à ma framboise, je vois l'huître, et après c'est parti, j'ai mes ingrédients basiques qui vont rentrer dans la recette. Et après le tube, je ne sais pas trop d'où ça vient. Non, je ne sais pas, c'est assez spontané.
Ça c'est l'artiste, après on n'explique pas toujours comment ça vient.
On va essayer de le mettre dedans, mais le tube, il ne faut pas que ce soit trop épais. Là, 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 là. Et après c'est parti.
Oui, alors après c'est parti. Vous goûtez quand même avant de servir ?
Alors, on goûte, sincèrement, on goûte tout. Tout est goûté. Déjeuner, dîner. Ne regardez pas comme ça.
Ça a l'air très très important. Parce que tout.
Non, mais on goûte tout. Et vous savez ce qui est merveilleux maintenant ? Et moi, mon plaisir, il est là. C'est que je fais goûter par mes équipes. Enfin, quand chaque cuisinier ou chaque responsable de station va goûter ce qu'il fait. Et là-dessus, ça fait des années que je le mets en place. Et là, ça fait peut-être un an, on commence à avoir ce rythme où les gars, ils vont préparer et chaque responsable de poste va goûter ce qu'il fait. Ce qui fait qu'en fin de compte, ils comprennent les choses. Mais ça peut être un snack, ça peut être une entrée, ça peut être un poisson. Tous les desserts sont goûtés avant chaque service. Pourquoi ? Parce que des fois, on a la tête dedans, puis on va pas faire attention. Ou on a tellement l'habitude de le faire qu'on n'a plus le rythme. Et en fin de compte, je veux également le pâtissier, entre les premières fraises et les dernières fraises, mais le taux de sucre n'est pas pareil. Le goût n'est pas pareil. Et ainsi de suite. Donc c'est important de goûter, ce qui nous permet de rééquilibrer les recettes, et puis de surtout comprendre ce qu'on fait.
David Toutain, j'évoquais ce livre qui vient tout juste de paraître aux éditions de La Martinière, qui est vraiment un livre très très beau pour un livre de cuisine. Il a été écrit, les textes sont signés d'un ornithologue, hein, Philippe-Jacques Dubois. Et j'ai ouï dire que cet ornithologue, c'était vous qui aviez plutôt choisi que ce soit quelqu'un qui ne soit pas de la cuisine. Alors, pas forcément lui tout de suite, mais quelqu'un qui ne connaisse rien à votre cuisine en tout cas. C'est un homme de la nature peut-être, mais pourquoi c'était important que ça soit signé par ce monsieur ?
Je ne voulais pas de... J'ai envie de quelqu'un qui ne me connaisse pas, pour repartir à zéro. Je n'avais pas envie d'avoir déjà des phrases déjà préparées, ou des textes déjà faits, ou une autobiographie déjà faite. Je n'avais pas qu'on reprenne des anciens textes pour remettre, pour recoller. Je voulais repartir de zéro. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'avec La Martinière, je leur ai expliqué mon choix. Ils m'ont demandé si j'avais quelqu'un pour l'écrire. J'ai dit oui, j'en ai plein. Mais en fin de compte, je ne veux pas. Je veux vraiment quelqu'un qui ne me connaisse pas du tout, qui n'a jamais entendu parler de moi, et qui s'y connaît juste dans la nature, qui va comprendre de quoi je parle quand on va retourner dans la ferme de mes grands-parents à Vassy, dans le Bocage. Et ils ont mis quelques jours, après ils m'ont présenté Philippe, on a sympathisé, on a passé nos week-ends ensemble.
Une vraie rencontre.
Il est venu en cuisine, et il ne connaissait pas du tout la cuisine, comment ça se passait. Il est venu manger au restaurant t'es un ovni, quoi. Parce que c'est chouette, parce que je suis habité, parce qu'il y a une histoire, c'est une histoire vraie tout ça, c'est pas du faux, c'est du vrai, c'est du concret. Et donc voilà pourquoi Philippe est intervenu, et je suis très très content du résultat.
Alors votre dessert à vous, l'un de vos desserts à vous, je le disais tout à l'heure, c'est chou-fleur coco chocolat blanc, hein, drôle de mélange. Nous, notre dessert à nous, aux bonnes choses, c'est la cerise sur le gâteau, restez avec nous. « Des villes qui mangent, c'est donc le titre d'une nouvelle exposition présentée à Lyon, dont on est partenaire à France Culture, Pierre Hiverna.
Oui, absolument. Et c'est une exposition très intéressante. La question de départ qui sous-tend ce projet est d'ailleurs assez simple au fond. Comment, dans un horizon pas si lointain, c'est-à-dire 2050, période où plus de deux tiers de l'humanité vivra en ville, allons-nous organiser les relations entre zone urbaine et zone rurale ? À question simple, évidemment, réponse complexe, car nécessitant non seulement la combinaison de données démographiques, mais aussi l'émission d'hypothèses de politique agricole, économique, diplomatique, le tout sur fond de réchauffement climatique. Mais pour bien saisir les tenants et les aboutissants de ces hypothèses, encore faut-il comprendre comment en est-on arrivé là. L'exposition débute donc par une vidéo d'une courte conférence de l'architecte britannique et auteur Caroline Steele, d'ailleurs accessible à tous sur le net et dont vous retrouverez le lien sur la page des bonnes choses. Celle-ci nous entraîne de la préhistoire à nos jours pour nous montrer comment les villes sont nées et pourquoi ont-elles autant grossi jusqu'à l'obésité. Tiens, Lyon par exemple. La métropole approche aujourd'hui les 1,4 millions d'habitants qui mangent 3 fois par jour. Ce sont donc, Caroline, plus de 4 millions de repas qu'il faut assurer quotidiennement. Et donc, accrochez-vous, si je multiplie par 365, ça nous fait plus de 1,5 milliard de repas par an. C'est vertigineux, non ? À partir de là, de manière assez pédagogique, l'exposition déroule les grandes problématiques qui en découlent. Quelle agriculture pour produire tout ça ? Quel transport, quel système de distribution et évidemment, quelles initiatives le consommateur ou les entreprises peuvent-ils prendre? Bon, dit comme ça, vous vous dites que l'on aurait mieux fait d'écrire un bouquin. Eh bien non, et pour au moins 2 raisons. La première, c'est que côté bouquin, on a ce qu'il faut. Que cette exposition est produite, je le rappelle, par la Bibliothèque municipale de Lyon, qui affiche, excusez du peu, plus de 2,5 millions de documents patrimoniaux, dont par exemple plus de 500 manuscrits médiévaux. Alors, rien que pour admirer cette eau-forte du Moyen-Âge représentant Lugdunum avec ses prés et ses champs, ou cette affiche des années 50 vantant l'entreprise lyonnaise Chocolat des Trois Frères, ça vaut vraiment le déplacement. La deuxième raison est que cette exposition laisse aussi beaucoup de place à l'imaginaire avec nombre d'artistes contemporains qui y sont exposés. On citera par exemple le travail de Tim Franco, photographe français qui a passé 10 ans en Chine où il a pu notamment observer l'appropriation des espaces de nature dans les kilomètres de nouvelles villes qui poussent, ou la plasticienne Clémence Joly avec ses rôtis ficelés et lardés, saucissons et entrecôtes d'une boucherie de laine qu'elle a tricotée. Et puis enfin, c'est à vous de terminer l'expo, avec une fresque à compléter avec vos propres idées, un projet imaginé par Julien Dossier. Et puis, Caroline, vous l'avez dit, nous sommes partenaires, et voilà donc que les madeleines qui nous régalent.
Quand même, j'ai cru que vous ne le diriez pas.
Bien sûr, elles nous régalent chaque semaine grâce à Mathéo et avant lui Natacha Triou. Elles rentrent au patrimoine avec une partie de la collection savamment sélectionnée que l'on peut écouter en série. Un paquet de madeleines, en somme, une œuvre en soi.
C'était la cerise sur le gâteau, la chronique de Pierre Hiverna, retrouvée sur le site de France Culture et sur le site d'Alimentation Générale. Merci beaucoup, David Toutain, d'être venu ce midi nous parler de votre cuisine et éveiller nos papilles.
Merci Caroline, merci beaucoup.
Bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Ledio, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Élise Le, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.